La suite dans les idées, Sylvain Bourmeau. Depuis des années déjà, ce qu'on appelle les visual studies se sont développés dans les sciences humaines et sociales, associant des chercheurs issus de nombreuses disciplines qui tous ont placé l'image, les images, au centre de leurs travaux. L'image donc sacralisée dans nos sociétés médiatiques globalisées, capable de fabriquer des icônes à une vitesse supersonique. Supersonique, comme si l'image avait doublé le son. Mais quid du son, justement ? Injustement oublié par les sciences sociales ? Pas tout à fait depuis l'avènement de ce qu'on peut appeler les sound studies, grâce notamment à un livre important dont l'auteur Jonathan Stern est aujourd'hui l'invité de la suite dans les idées. Jonathan Stern, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes enseignant à l'université McGill à Montréal, où vous enseignez l'histoire culturelle et les théories de la communication. Et vous êtes notamment l'auteur d'un livre qui paraît en français dans la collection La Rue Musicale, qui est une coédition entre La Découverte et la Philharmonie de Paris. Vous publiez donc une histoire de la modernité sonore. Alors, ce livre est un peu un geste fondateur de ce que je viens de désigner comme les sound studies, qui sont moins connus que les visual studies. On avait récemment, à la suite dans les idées, l'historien de l'art André Günther qui travaille sur les images. On a moins souvent des chercheurs qui travaillent sur le son, et pourtant le son, comme la vision, fait partie de nos sens et à ce titre intéresse tout autant les sciences humaines et sociales. D'où évidemment ce projet des sound studies, qui puise aussi une partie de ses ressources dans ce virage de l'histoire des sciences qu'on a connu depuis maintenant un certain nombre d'années, une trentaine, quarantaine d'années autour des science studies, et qui cherche à penser ensemble les sciences et les techniques et surtout les usages des appareils. Et moi, ce que j'ai trouvé passionnant dans votre livre, c'est que vous pensiez non seulement l'invention d'un certain nombre de machines qui ont changé notre rapport au son, mais surtout vous insistez sur le fait que, plus encore peut-être que les inventions scientifiques, ce sont les usages qu'on a fait des objets inventés qui sont déterminants pour structurer en quelque sorte notre rapport à tout ce qui constitue le son aujourd'hui.
Yeah, I think the sort of big takeaway there is that sound technologies
are cultural artifacts. Que les études culturelles, ce sont des artefacts, ça ne tombe pas du ciel. Il faut quelqu'un pour inventer, il faut quelqu'un pour commercialiser. Il y a des innovations, il y a des technologies qui fonctionnent, d'autres non. Mais lorsque l'on dit que le phonographe a changé la façon dont on écoute, ce n'est pas tout à fait vrai. En effet, il existait des techniques et des pratiques qui existait bien avant l'invention. Dans mon livre, je parle de la publicité pour des casques. Donc il y a une ancienne publicité qui vous dit « Vous avez besoin d'un casque d'écoute ». C'est un texte d'une page qui vous donne un certain nombre de raisons qui justifient l'achat de ce casque. Et si l'on revient à ce que disait René Lévesque sur l'auscultation, c'est un médecin qui décrivait le premier stéthoscope à l'usage des médecins, il évoque les mêmes raisons de l'utilisation du stéthoscope que celles invoquées par cette publicité pour l'utilisation d'un casque d'écoute. Donc, vous voyez le parallèle. Donc, dans les deux cas, on dit qu'il faut s'attacher à l'écoute par un outil acoustique lié à l'oreille, et ça va au-delà de l'écoute avec seulement les oreilles. Il est dit qu'il faut améliorer, augmenter l'écoute humaine. Et on parle de techniques pour y parvenir, des méthodes de s'isoler dans un monde sonore, des méthodes de participer au son et de faire attention aux choses de manière sonore différente. Donc, lorsque l'on parle de technologie sonore et d'écoute, il faut parler également de technique, comme vous vous dites, il s'agit d'usage. Mais pas simplement d'usage, on pourrait également dire de routine opérationnelle ou de modalité. Marcel Mauss, l'anthropologue français, donc des techniques corporelles, de posture, si vous voulez, où l'écoute peut faire l'objet d'une réflexion, une pratique technique qui évolue sur le plan culturel et historique selon le contexte et selon les pratiques.
Alors, pour continuer le parallèle que je faisais tout à l'heure avec l'historien des images André Günther, il y a quelques semaines ici, on parlait d'une pratique, d'un usage contemporain qui s'est développé récemment, de l'usage et de la prise d'images, c'est le selfie en photo. On pourrait de la même façon s'interroger sur ce qui est son équivalent pour le son à certains égards, en tout cas ce qui a fait irruption de la même façon dans l'espace public, à savoir le port du casque audio, non pas le casque audio dans son salon comme dans les années 70, les publicités invitaient les audiophiles à le mettre sur leurs oreilles, mais bien le casque audio porté dans l'espace public et qui coupe de l'espace public et donc offre un autre rapport au son que celui de la ville, que celui qui nous entoure. Voilà, typiquement le genre, j'imagine, de transformation du comportement qui vous intéresse dans cette histoire de la modernité sonore.
Oui, le casque dans l'espace public, c'est un très bon exemple parce que c'est récurrent. On a vu ça avec les transistors, avec le petit appareil qu'on se met à l'oreille. Il y a le Walkman de Sony dans les années 80, puis il y a le iPod et l'iPhone dans les années 2000. Et dans chaque cas, les gens se préoccupent du fait que l'on mette des choses dans les oreilles. Et ce que j'entends par là, c'est que on regarde le geste. On ne s'intéresse pas à l'écoute. On regarde le geste et on dit « Ah, cette personne a mis quelque chose dans ou sur son oreille. » Cette personne s'est donc déconnectée du monde extérieur. Mais c'est ce que l'on attribue. C'est un jugement, si vous voulez. Et c'est un jugement enraciné dans ce qu'on pensait de la surdité. Aristote disait que l'écoute, c'est une des parties constitutives de la subjectivité et qu'une personne sourde ne pouvait pas être une personne pleine et entière. Ce n'est pas vrai, évidemment. Il y a une culture sourde très riche avec le langage des signes, il y a même de la musique pour sourds et par des sourds. Donc le fait de fermer ses oreilles ou de ne pas avoir d'audition, ça ne vous empêche pas d'être immergé dans le monde, évidemment. La deuxième chose, c'est que lorsque les gens écoutent par l'intermédiaire de casques, ils entendent tout de même ce qui se passe dans le monde autour d'eux. Les casques d'Apple sont des casques ouverts en réalité. On entend des choses à l'extérieur, évidemment. Il y aurait des gens qui se plaignent qu'ils n'entrent pas suffisamment bien dans les oreilles. Donc, ça ne vous isole pas du monde complètement, mais les gens qui portent des casques essayent de comprendre le monde différemment. Donc, Marc Auger, qui traite du métro, il dit qu'il y a cet espace de l'entre-deux. On est dans l'entre-deux. Et cette notion me séduit, moi. C'est de la quasi-sociabilité. Qu'est-ce qui se passe si on enlève son casque dans le métro? Et qu'est-ce qui se passe si on interagit avec les gens dans le même wagon que vous? Les gens ne veulent pas une ouverture intersubjective totale, parce que si les gens se mettent à vous parler tous dans le métro, les gens seraient troublés. Donc il y a des modes d'interaction dans la vie quotidienne qui sont tels que l'on dépend d'une espèce de disponibilité vis-à-vis de l'autre, mais ce n'est pas une disponibilité totale. Bien que dans le métro, peut-être pas à Paris, il y a, si ça existe à Paris, c'est des journaux gratuits. On vous donne des journaux gratuits dans le métro et les gens lisent ce journal. Et là, la publicité se porte bien, évidemment, parce que les annonceurs savent qu'ils peuvent recueillir l'attention des gens qui partent au travail grâce à ces journaux gratuits. Et on ne dit pas la même chose sur ces journaux que ce que l'on dit des porteurs de casques. Les gens sont immergés dans un journal gratuit et pourtant on n'étudie pas ça, on ne critique pas ça. Alors, l'écoute au casque, c'est une tentative de comprendre le monde alors qu'il est un petit peu agressif, mal conçu pour vous. Mais on peut également dire que le port du casque, c'est un continuum de pratiques sensorielles et esthétiques qui vont au-delà du périmètre sonore. La troisième chose, c'est que cela sous-tend une relation à la musique. Et en fait, il nous faut de la distraction. C'est, comme vous l'avez dit, c'est pas la personne dans son salon qui essaye d'avoir une meilleure écoute de la musique et qui essaye de le concentrer, ou la personne qui assiste à un concert dans un auditorium et qui veut de la qualité et qui ne se concentre que sur ce que fait l'orchestre, ou alors celui qui va à un concert de rock et qui, un verre de bière à la main, écoute un groupe de rock. Non, il s'agit d'écouter de la musique alors que l'on fait autre chose. Et donc, on est distrait. Et cette notion de distraction, c'est tout à fait fondamental quand dans la façon dont les personnes établissent établissent leur relation au son. Et c'est tout à fait normal, c'est banal, et puis à mon avis, ça ne mérite pas une critique aussi acerbe.
D'ailleurs, on pourrait poursuivre la comparaison, et ça ressemble beaucoup à cette pratique du multi-écran que l'on voit notamment avec les enfants très à l'aise, qui finalement ne regardent plus la télévision sans regarder dans le même temps un écran de téléphone ou de tablette. Et on a un petit peu la même capacité à être multitâche visuellement comme à être multitâche de façon sonore, en quelque sorte.
Well, I don't necessarily use the word multitasking.
Ah, multitâche, c'est pas un terme que j'utilise volontiers. Mais il y a une histoire très longue de cette pratique. Par exemple, prenons l'espace sonore, la résonance de ce studio, de la maison de radio. Non, prenons pas ce studio, prenons un café. Vous avez le bruit du café, les gens discutent, les gens boivent un café qui est fait à la machine, on entend la machine, et puis il y a des haut-parleurs. Et la musique est diffusée dans les haut-parleurs de ce café. Et imaginez que ce soit une chanson des Beatles. La voix, on l'entend, la basse, on l'entend, la batterie, on l'entend dans un espace acoustique différent. Il y a de l'écho, par exemple, ou de la réverb, ou alors une musique de surf. Là, il y a de la réverb sur la guitare. Donc, là, on a une personne qui boit un café dans un espace sonore unique et qui parle avec une personne. Donc, on est dans une ambiance. On est dans une ambiance de bruit et de musique. Et il y a différentes ambiance soutenue par la musique. Ça, c'est tout à fait normal. C'est d'une très grande banalité. Ça existe depuis des décennies. Donc, lorsque l'on parle de multi-écran ou de réalité augmentée, et lorsque l'on parle de multiplicité d'espaces disponibles en même temps, eh bien, ça existe dans le domaine sonore, ça. Donc, on pourrait dire que l'évolution multi-écran, c'est de la culture visuelle qui rattrape la culture sonore. Hein. En même temps, l'attention, c'est un artefact culturel. S'agissant du multitâche, en tant qu'enseignant, moi, j'aime pas que les étudiants fassent du Facebook pendant mes cours, parce qu'évidemment, je voudrais qu'ils se concentrent sur ce que je dis, ou du moins qu'ils se concentrent les uns sur les autres. Et c'est évidemment ce que l'on attend comme concentration de la part des étudiants. Donc, l'idée de cet exercice de multitâche pour décrire les plateformes telles que les Facebook, les autres réseaux sociaux qui, en fait, exercent cet impératif, eh bien, c'est insuffisant pour comprendre la politique de l'attention et de la distraction et du rapport qu'il y a avec d'autres pratiques humaines, d'autres institutions et d'autres contextes. Et je reconnais tout à fait qu'il est possible de se concentrer sur plus d'une chose en même temps, dans certaines circonstances.
Alors, vous réfléchissez dans votre livre sur le fait que, comme je le disais en ouvrant cette émission, il y a une sorte de primat accordé à l'image et que le son arrive en quelque sorte en second, priorité à l'image dans nos sociétés. En tous les cas, afficher, revendiquer, vous essayez de comprendre pourquoi. Peut-être d'ailleurs, vous allez nous rappeler les principales explications que vous donnez. Mais moi, j'en vois une autre d'explication. Est-ce que tout simplement, ce primat de l'image ne s'explique pas par le fait que, au fond, lorsque l'on entend un son, ce son peut nous amener à le transformer en image. C'est-à-dire que nous avons une capacité de visualisation mentale du son qui fait que les images existent même à partir d'un son. Que ce ne sont pas des images au sens matériel du terme, mais que lorsqu'on écoute de la musique, lorsqu'on entend n'importe quel son, on peut visualiser quelque chose qui s'y rapporte. Alors que la situation inverse est différente. Lorsqu'on est face à un film muet, par exemple, on n'a pas la même propension, je dirais, à inventer le son qui va avec, ou en tous les cas, peut-être est-ce que tout simplement parce qu'on y est moins entraîné qu'à faire le chemin inverse, en quelque sorte.
Peut-être que c'est spécifique sur le plan culturel et historique. Greg Olman, mon collègue, dit que le film muet n'a jamais été muet. Le film muet a toujours été accompagné par de la musique, par des artistes qui lisent des choses ou par le son du public qui ne se gêne pas pour parler pendant la diffusion du film muet. Donc il y a une différence par rapport à la photo. La photo, c'est une image muette et il n'y a pas de son dans une photo. Alors que le film muet, Et si on voit un film muet sur un DVD ou sur YouTube, eh bien, quelqu'un a ressenti le besoin d'y attacher une bande sonore. Ce n'est pas la même chose que de voir une image et de dire « Ah, quel son est-ce qu'on imagine avec ça ?» Mais c'est un habitus culturel. McLuhan dit ça, d'ailleurs. Si on entend un son, évidemment, on se tourne pour voir. Et lui, il fait une argumentation liée à l'évolution là-dessus. Mais c'est spécifique sur le plan culturel. Prenez Stephen Fields, qui s'est penché sur le peuple, des peuples en Guinée. C'est un anthropologue qui nous dit qu'il spatialise le son d'une façon différente des Occidentaux avec lesquels il a grandi. Donc, il y a une cartographie sonore différente de la forêt chez ces gens-là qui y vivent que nous. Donc, les sons n'appellent pas des images ou alors font référence à des appels ou à des espaces. Donc, il y a une préconception occidentale quant à cela. Ça vient des Grecs, puis de la théologie chrétienne. La lumière est une métaphore de la vérité et cela, évidemment, repose sur le support visuel. Dans mon livre, j'ai fait beaucoup de recherches et je me suis aperçu que ça n'a pas toujours été vrai. Peut-être que l'on a un petit peu survendu cette thèse visuelle. Non pas que l'on utilise des métaphores sonores pour décrire la vérité, ce n'est pas le cas, pas d'une façon générale. Là, je vous entends, c'est une sorte de geste d'intersubjectivité ou une croyance qui repose sur la crédibilité, mais ce n'est pas la même chose que de dire « je vois ce que vous voulez dire », voyez. Mais en même temps, je pense qu'il y a des histoires de la connaissance qui sont sonores et qui ne sont pas attribuées au son alors qu'elles devraient l'être. Lorsque je me suis penché sur l'histoire du stéthoscope, par exemple, je me suis aperçu que le stéthoscope, c'est une connaissance auditive du corps. Et jusqu'à récemment, c'était une icône. La maîtrise du médecin vient du stéthoscope. Et le médecin a le stéthoscope pendu au cou. Ça donne sa crédibilité et ça donne son expertise professionnelle. En même temps, si vous lisez ce que dit Foucault sur le stéthoscope, Foucault nous dit, eh bien, voilà, une rationalisation de la technologie, donc ça doit être une technologie visuelle. Il faut la considérer sur le plan visuel. À mon avis, c'est une erreur. Je ne dénigre pas Foucault, j'adore Foucault, mais en réalité, c'est une technologie acoustique. Et donc, l'écoute peut être une technique de rationalisation et de cognition. Dans l'histoire du télégraphe, le télégraphe, c'est le prédécesseur du téléphone et de la radio. On envoie des messages de manière électrique et de manière instantanée grâce à des câbles. Avant, on utilisait des signaux de fumée ou des drapeaux, que sais-je encore. Et le premier télégraphe commercial, celui de Morse, Samuel Morse, faisait du bruit. Mais on avait quand même quelque chose d'imprimé, un petit peu comme une bande, évidemment. Et les opérateurs ou opératrices de téléphone savaient qu'en écoutant le télégraphe, on pouvait transcrire plus rapidement qu'en voyant. Donc, ça devient un exercice de virtuosité professionnelle, une façon d'accroître la productivité, l'efficacité. Non pas que l'on ait tout à coup des métaphores sonore pour décrire la vérité ou la professionnalisation. Le son fait partie de ces histoires modernes, de ce que l'on appelle le maelstrom de la modernité, le capitalisme, la rationalisation, la raison, la science, la technologie, le colonialisme, l'industrialisation et ainsi de suite.
Une histoire assez récente. Là, on est dans un studio de radio, Jonathan Stern. On parle du son. Et donc, moi, j'ai sur les oreilles un casque, comme d'habitude, quand je fais de la radio, de façon à ce que les techniciens, les réalisateurs de l'émission puissent me passer des messages qui ne soient pas entendus, éventuellement. C'est l'usage du casque. Mais l'autre usage du casque, c'est aussi de pouvoir entendre, moduler sa voix, ce qui est une expérience particulière. Là, pour le coup, un petit peu l'équivalent de l'autoportrait en photo. C'est une expérience relativement récente. Moi, je me rappelle très bien, j'avais, je sais pas, une dizaine d'années quand sont apparues les micro-cassettes avec des micros, et c'est la première fois qu'on pouvait assez facilement s'enregistrer et faire l'expérience de l'écoute de sa voix qui semble très différente lorsqu'on n'est pas habitué à l'entendre de celle qu'on entend quand on parle tout simplement à quelqu'un. Sauf que quand on fait de la radio, on finit par finalement confondre totalement la voix qu'on entend dans le casque quand on parle à la radio avec celle qu'on entend lorsqu'on est dans une conversation avec quelqu'un. Mais ça demande un apprentissage sonore, et nous ne sommes pas finalement si nombreux que ça à vivre avec cette adéquation entre notre autoportrait de voix en quelque sorte et notre voix sociale. Jonathan Stern.
That's a great question.
Ah, c'est très intéressant ce que vous dites là. La première chose que les auditeurs doivent savoir, c'est que autour de cette table, vous, Sylvain, vous êtes le seul à porter un casque. Moi, je ne peux pas moduler ma voix. Il y a quelqu'un derrière la vitre qui s'occupe de ça pour moi. Je dois lui faire confiance. Bref, le fait de s'entendre parler, c'est un phénomène très intéressant. Nous avons une espèce de perception, une espèce de subjectivité qui est souvent liée à la parole. Certaines personnes parlent plus que d'autres, vous me direz, il y a des gens qui s'y intéressent plus que d'autres, mais la subjectivité est ce qu'elle est. Donc, par exemple, lorsque les répondeurs sont devenus disponibles et les gens se demandaient ce qu'il fallait bien dire dans le message, et bien souvent, ils étaient choqués par l'enregistrement de leur propre voix, parce que c'était des gens qui n'avaient pas l'habitude de s'enregistrer, ce que vous disiez très justement d'ailleurs, parce que ces gens-là avaient baigné dans une culture où l'enregistrement, c'est l'apanage des professionnels de l'enregistrement. Et tout à coup, il faut qu'on enregistre un message sortant pour son répondeur. Il y a des gens qui disent « Je suis pas là, laissez un message, je vous répondrai. » Et ils s'entendaient, et ils étaient choqués. Choqués parce que... Et ils disaient, mais c'est pas ma voix. Moi, c'est pas du tout le son de ma voix. Mais c'est vrai que le répondeur ne reflète pas leur voix, mais ça ne reflète surtout pas ce qu'ils pensent de leur voix. En tout cas, c'est un phénomène très intéressant. La subjectivité est en désaccord avec les autres perceptions que l'on a de soi. Et donc, on est dans ce dilemme hegélien. Il faut compter sur la reconnaissance de l'autre pour savoir que notre voix fonctionne ou pas, alors que les voix ne fonctionnent pas toujours comme elles le devraient. Et moi, j'ai pas mal d'expériences personnelles dans ce domaine. J'ai une corde vocale paralysée, moi. Et le cancer m'a bouffé une de mes cordes vocales. Autrement dit, l'une de mes cordes vocales est immobile. Et tous les 18 mois, je fais l'objet de chirurgie esthétique pour que je puisse mieux avaler et mieux parler. Et puis, j'ai une voix assez forte, ce qui est une bonne chose d'ailleurs, parce que j'arrive néanmoins à m'exprimer. Autrement dit, tout ça pour dire que ma voix évolue en permanence aujourd'hui. Et c'est plus évident pour moi que pour les gens qui m'écoutent. Lorsque j'ai la voix rauque, il y a des gens qui me disent « Ah, t'as une chouette voix et tout, parce qu'évidemment, la voix rauque, c'est génial chez les vedettes de Hollywood ou chez les chanteurs de blues qui fument et qui boivent. » Mais moi, j'arrive à entendre les changements de ma voix. Et ça, ça me donne une sensation corporelle différente. Et parfois, ma voix me lâche aussi. Donc, je suis à un autre niveau de conscience personnelle, de subjectivité, à la faveur ou en raison de ce cancer. Et j'ai des étudiants qui m'ont dit, mais c'est ironique, vous êtes spécialiste en sound studies et puis vous avez une voix qui ne fonctionne pas. Ça m'est arrivé en 2010, plusieurs années après la sortie de mon livre en anglais. Et je dis deux choses. Eh bien, je suis ravi d'avoir partagé mes arguments sur la voix dans mon livre, à savoir que la voix ne peut pas être traitée sur le plan philosophique ou politique comme le siège de la subjectivité, parce que si l'on fait cela, eh bien, on met en adéquation les individus avec les collectivités, et puis on aurait des préjugés envers les sourds et les muets. Donc, on vient à Aristote. Par ailleurs, je dis, pourquoi personne ne dit que les gens qui font des visual studies portent des lunettes, et ça c'est ironique. Il y a plein de porteurs de lunettes intellectuels qui s'intéressent aux études visuelles, à l'aspect visuel des choses, et personne ne pose cette question. Donc il faut s'intéresser à ça du point de vue de ce dont on vient de parler, mais aussi du point de vue de notre rapport au handicap.
Jonathan Stern, on arrive au terme de cette émission. Une autre question sur la radio, parce qu'on s'aperçoit que la mutation numérique que nous vivons et qui a changé notre rapport au son comme aux images, par exemple, a permis finalement à la radio de se renforcer, contrairement à d'autres médias qui sont directement fragilisés par cette mutation numérique, avec le développement des podcasts. Et c'est particulièrement vrai pour une radio comme France Culture. On a là une nouvelle invention du formatage d'un son et de sa transportabilité en quelque sorte. Alors ça, c'est tout un pan de votre travail dont on n'a pas parlé, qui est la question de la distance entre l'émetteur et le récepteur du son, puisqu'au fond, toute cette histoire de la modernité sonore est l'histoire aussi de la transportabilité du son.
Yes, so all media are basically technologies.
Tous les supports sont des technologies de stockage et de transmission. Et dans mon livre, j'explique que tout dépend des circonstances. J'en ai parlé avec les cassettes. La production de son, c'est l'apanage de certains, et la réception, c'est pour d'autres. Et ça, ça fait partie d'un produit historique. Il y a eu le phonographe qui pouvait au début enregistrer. Ça fait partie du voodoo victorien, parce qu'au début, vous avez des familles bourgeoises qui avaient un piano dans leur salon, n'est-ce pas? Et l'épouse était capable d'être la pianiste, ça lui plaisait ou non d'ailleurs dans certains cas. Donc parfois, on voit le piano comme faisant partie des cours que suivaient les femmes. Évidemment, les jeunes filles apprenaient moins à jouer le piano. Ensuite, c'est le gramophone qui arrive. Et les disques peuvent être produits en masse. On arrive à un modèle où l'enregistrement sonore, c'est l'apanage des spécialistes. Et c'est la même histoire pour la radio, plus ou moins. La radio, c'est de la communication bidirectionnelle au début. Puis, la radio devient unidirectionnelle. Ça devient nationalisé. La radio est liée à des projets de formation de la culture nationale. De même, on pourrait dire que les premières générations avaient des journaux et de la littérature. Et la radio nationale, telle que la BBC, la CBC au Canada ou Radio France en France, ont eu un rôle de formation de l'identité nationale. Et la temporalité de la radio, c'est très important. Ce n'est pas par hasard si seuls certains types d'accents étaient permis à la radio. Ce n'est pas par hasard si certains types d'orateurs ou de porteurs de culture étaient permis à la radio, parce qu'il s'agissait de porter et de répandre la culture nationale. Donc la radio, eh bien, c'est une histoire de synchronisation du temps et de l'action, c'est une espèce de métonymie de l'appartenance sociale. Aujourd'hui, nous vivons dans une culture de l'immédiateté et des médias, et l'appartenance est un sujet plus délicat. Et on entend différentes voix. La palette est plus large. D'une façon générale, on peut dire que c'est une bonne chose. Et aujourd'hui, tout un chacun peut acheter un micro à $200, 200 euros, et puis utiliser un logiciel gratuit pour produire une émission de radio et la rendre disponible en balado-diffusion. Et donc, cette balado-diffusion est disponible en parallèle de celle de Radio France. Peut-être qu'on rachètera ces émissions pour les rendre publiques ou disponibles sur des radios commerciales. Donc, il y a cette histoire-là aussi. Mais je crois qu'aujourd'hui, la relation des gens a changé par rapport à tout cela. Il y a différents types d'engagement, de participation à ces projets collectifs. En tout cas, j'espère que la radio deviendra un petit peu plus plastique. Les gens, je l'espère, pourront écouter, mais aussi faire de la radio davantage, contribuer au projet radiophonique. Et j'espère qu'on arrivera à une culture où la production et la consommation sont plus mêlées et l'autorité culturelle sera un petit peu plus souple qu'elle ne l'est aujourd'hui.
Merci beaucoup, Jonathan Stern. Je rappelle le titre de votre livre, Une histoire de la modernité sonore. Il est publié avec les éditions La Découverte et la Philharmonie de Paris. On trouve les références bibliographiques sur la page de la suite dans les idées, où vous pouvez évidemment écouter cette émission en podcast.
Merci.
C'était la suite dans les idées. Merci à Xavier Combes pour la traduction des propos de Jonathan Stern. Attaché d'émission Cyril Baer, à la technique Olivier Dupré, à la réalisation Jean-Christophe Francis. C'est la conversation scientifique d'Étienne Klein que l'on retrouve dans quelques instants sur l'antenne de France Culture.